Une, deux. Que Dieu soit béni. Je serai toujours émerveillé par l'inspiration du Seigneur. Le Nécro. Je ne sais pas si Romain a ressenti l'inspiration du Seigneur pendant qu'il faisait la Sainte Cène. Je ne pense pas. C'est tellement naturel que des fois on ne s'en rend même pas compte. Mais le texte que je vais vous lire, c'est « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? » Il n'a pas lu mes notes, hein? Je crois que le Seigneur veut encore dire quelque chose à plusieurs. Pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans? Et la suite, vous la connaissez, la suite? Parce qu'il s'est arrêté là, mais la suite. Qu'est-ce qu'il se dit, le psalmiste, à lui-même? Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Si je suis dans le gémissement, je ne suis pas dans l'espérance. Forcément. Et ce que le Seigneur voudrait, et je le crois par l'action du Saint-Esprit, c'est que tous ces gémissements, ces plaintes, tout ce que nous accumulons à cause des soucis de la vie, que tout cela soit pour que l'espérance. Je ne dis pas que les problèmes vont se régler comme ça, ce n'est pas ça que dit le texte. Mais le texte, le psalmiste se dit à lui-même, ne te nourris plus de tes gémissements, mais nourris-toi de l'espérance. Et en attendant, loue Dieu, en espérance. Parce que c'est là qu'on verra la main de Dieu s'occuper de nos affaires, de nos problèmes. Et il y a un don spirituel là-dessus. Faisons-lui confiance. La confiance, c'est l'espérance. C'est le psaume 43, verset 5. On va ouvrir les Bibles. Ouvrez vos Bibles. Je voudrais vraiment que nous le lisions ensemble. Il revient plusieurs fois, ce verset. Le psalmiste vraiment s'interroge et il ne repose pas la faute sur les autres, il ne repose pas la faute sur les situations, sur les circonstances. Il regarde son cœur. Parce que le problème, ça ne vient pas de l'extérieur. Le problème, il vient de l'intérieur, le fond de nos cœurs. C'est de là que tout vient, hein? Les bonnes choses comme les plus mauvaises. Psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Vous êtes des gémisseurs devant Dieu? Vous savez, en Israël, il y a ce qu'on appelle le mur des lamentations. Le mur des gémissements. Bon, il y a tout un contexte, hein, on ne dénigre pas. Mais bien souvent, notre vie de prière est faite de gémissements et de lamentations. Parce qu'on se nourrit des soucis que nous traversons jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et comme on se nourrit de ça, ben forcément, on va produire des fruits de cela. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que c'est un manque de confiance, finalement. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il prendrait soin de nous? Combien il faut que l'espérance se renouvelle à nous, sans cesse. L'espérance. Je voudrais compléter cette lecture dans, alors je vais lire dans la version Semeur, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18 et je voudrais baser ma réflexion ce matin sur une expression biblique qui, on l'a lu plusieurs fois, mais peut-être qu'on ne s'est jamais arrêté dessus, tellement on est habitué aux mots et à ce vocabulaire un peu évangélique. Mais ce matin, on va s'arrêter sur une expression très particulière. 1 Pierre 1, 18, je lis dans la version Semeur. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par Christ, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire. Et voici l'expression. Ainsi, puisque Christ a tout accompli, ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Et les Louis II ont traduit, votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Expression que je voudrais que nous, autour de laquelle je voudrais que nous méditions ensemble, c'est la foi et l'espérance. Combien de fois on a lu ces mots? C'est très familier comme vocabulaire, la foi, l'espérance, même dans nos prières. Mais est-ce qu'on sait réellement ce qu'est, oh non pas la foi, mais l'espérance? Et notez que Pierre en fait deux choses complètement différentes, la foi et l'espérance. Vu que Christ est mort pour toi, tu es donc maintenant rempli de foi et d'espérance. Parce que les deux reposent sur Dieu. La foi et l'espérance. La foi et l'espérance, c'est une expression des Écritures. Elle ne revient pas si souvent que ça. 9 fois. 9. C'est pas beaucoup. C'est même pas 10. C'est 9. Pourtant, vous les dissociez, le mot foi, 236 fois. Je les ai pas comptés, hein, c'est des logiciels qui calculent. Hein. 236 fois. Le mot espérance, 99 fois. Quand on les prend d'une manière isolée, mais une fois qu'on les rassemble, foi et espérance, que 9 fois. 9. Mais c'est quand même suffisant pour en faire un sujet de prédication. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est dans ton cœur la foi et l'espérance. Parce que Dieu, parfois, il voit la foi, mais plus l'espérance. Si on devait donner des définitions, je dirais d'une manière très, mais très simple, hein, très simple. On ne va même pas rentrer dans le grec et dans l'hébreu, on va rester très simple. Hein. La foi, ben, c'est de croire. Vous êtes d'accord avec ça? La foi, c'est de croire à des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire que la Bible est vraie. Pourtant, la Bible nous parle de choses incroyable. Et pourtant, on y croit. Oh, c'est une action de l'esprit, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible est remplie de déclarations, la Bible est remplie d'affirmations, la Bible est remplie de promesses, de certitudes. Mais il faut vraiment avoir la foi pour y croire. Parce que quand on n'a pas la foi, on n'y croit pas. Mais nous, nous avons la foi. Amen. Hébreux 11. Le connaît par cœur. La foi est une ferme assurance. Ouais, de quoi? Oh, tiens donc. Ah, des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est intimement liée, reliée à l'espérance. C'est pour ça que l'espérance ne peut pas aller sans la foi, mais malheureusement, la foi, des fois, n'est pas suivie de l'espérance. Alors, si je devais donner une définition de l'espérance, c'est tout simplement, l'espérance, c'est de s'attendre à ce qu'on a cru. Ben oui. C'est de s'attendre à ce qu'on a cru. Si tu crois à une promesse de Dieu, tu as la foi. Mais l'espérance, c'est de croire que cette promesse va se réaliser maintenant dans ta vie. Et là, force est de constater qu'en examinant le fond de nos cœurs, nous avons tous la foi en jugeant bah, toute la parole de Dieu, on y croit que c'est vrai. Mais avons-nous l'espérance dans certains domaines des Écritures? Des fois, l'espérance n'y est plus. Je vais vous donner un exemple très concret, la guérison. Qui ne croit pas que Dieu peut guérir encore? On est tous pareils, on y croit tous. Nous croyons que Jésus peut guérir toutes les maladies. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Jésus, tu peux guérir ma maladie? Et là, malheureusement, des fois, il n'y a plus d'espérance. On a tellement été déçus des prières inexaucées, déçus de toutes ces gouttes d'huile qui n'ont eu aucun effet, déçus parce qu'on a prié, prié, jeûné. On y croyait, on y croyait, on y croyait. On espérait, mais rien n'est venu. On y croit toujours, mais on ne s'y attend plus. Vous voyez la différence? On sait tous que Dieu peut guérir, mais est-ce qu'on s'attend à la guérison quand on est malade? Bien souvent, notre façon de parler témoigne qu'on n'espère plus. À la grâce de Dieu, hein, si Dieu veut vraiment me guérir, qu'il le fasse. Mais on ne s'y attend plus réellement. On ne s'y attend plus réellement. Et des fois, même quand il y a des appels, vous savez, des appels dans des réunions, que les malades s'avancent. Il y a plein de malades qui vont rester assis parce qu'ils y croient, mais ils n'espèrent plus, tellement leur espérance a été piétinée, déçue, résignée. Vous voyez la différence entre la foi et l'espérance? Nous sommes des gens avec une grande foi, parce qu'on croit que toute la Bible est vraie. Mais l'espérance, elle a pris parfois un sacré coup dans l'aile. Et il y a des choses dans des domaines particuliers où on n'espère plus. C'est-à-dire, on ne s'y attend plus comme si ça pouvait arriver là, maintenant. Le baptême du Saint-Esprit. On croit tous que Jésus veut et peut nous baptiser du Saint-Esprit. Mais parfois, on ne le demande plus parce qu'on ne s'y attend plus. Parce qu'on a été tellement déçu, que ça n'a jamais marché. L'espérance n'y est plus. La foi, mais plus l'espérance. Mais Pierre dira, non, il faut que la foi et l'espérance reposent sur Dieu. Malgré toutes les déceptions, il faut que la foi et l'espérance se renouvellent sans cesse. Ce sont deux choses bien distinctes et il faut que ça soit renouvelé en nous. La Bible parlera, et vous avez un texte, des textes clés, hein, où vous voyez vraiment cette distinction. 1 Corinthiens 13, je cite, hein, « Maintenant, trois choses demeurent. » Trois. Et c'est de loin les plus importantes. Et la foi. C'est quoi après? L'espérance. Vous voyez? Paul en fait deux choses différentes. Et l'amour. Bon, et la plus grande, c'est l'amour. Mais et il en fait deux choses différentes. Dans les Thessaloniciens, il va parler de l'armure. L'armure, elle revient dans Éphésiens, mais elle revient aussi dans les Thessaloniciens. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Deux choses différentes. Deux choses qui doivent être vivantes en chacun de nous. Parce que ça glorifie le Seigneur. Je peux, je le répète, je peux avoir la foi et plus l'espérance, dans certains domaines. Mais si j'ai l'espérance, j'ai forcément la foi. Le but, c'est d'avoir les deux. Du moins, l'action du Saint-Esprit est de créer les deux dans notre cœur. La foi, on le sait, c'est le Saint-Esprit qui l'a créé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, à l'écoute de la parole de Dieu, fait que la foi devient quelque chose qui va prendre vie. Mais c'est tellement vivant qu'on se dit, mais si ça a marché pour eux autrefois, des temps bibliques, ça va marcher pour moi aujourd'hui. Et là, c'est l'espérance. Parce que l'Écriture va nous donner l'espérance. Malgré le temps qui a passé. Il y a ce texte qui nous dit, en parlant justement de l'espérance, Romains 15, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire que si Dieu a béni les autres en son temps, Dieu nous dit par l'Écriture qu'il peut le faire aujourd'hui pour toi. Ta foi engendre l'espérance. Vous imaginez si on avait un Dieu qui nous dirait, bon, je vous bénirai, mais seulement quand vous serez là-haut dans l'éternité. Donc toute votre vie terrestre, votre cheminement avec Dieu, c'est comme si Jésus dirait, et vous attendez à rien, je ferai rien. C'est terrible, hein? C'est terrible de marcher comme ça en se disant, bon, mais j'attends de mourir pour être béni. Non, Jésus nous dit, non, mais j'ai béni tant et tant et tant autrefois qu'aujourd'hui encore, je veux le faire pour toi. Tu seras béni ici-bas, tu seras béni là-haut, que ton cœur soit plein d'espérance. Attends-toi à moi, je vais m'occuper de toi. Foi et espérance. S'attendre à la bénédiction du Seigneur. On a un exemple dans le livre des Actes, c'est quand Jésus était avec les disciples et oh, il est mort, il est ressuscité le troisième jour et il va passer quelques jours avec eux. Il va passer un séjour de 40 jours avec eux quand même, pour leur expliquer les choses qu'ils n'avaient pas comprises, certainement. Je vais lire le texte, parce que vous allez voir qu'il y a un mot qui va quand même apparaître très fort. Acte 1, 3. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Seigneur est en train de semer dans leur cœur une graine d'espérance. Jésus leur a toujours dit, de son vivant ministère terrestre, un jour vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est jamais arrivé de son vivant, on va dire, hein. Et là, il est ressuscité, il leur dit maintenant, ça va venir. Ça va bientôt venir. Ce que le Père a promis, attendez-le, ça va arriver. Donc, toute cette foi qui était sur des promesses d'avant la croix engendre maintenant une espérance parce que Jésus leur dit, ça va bientôt maintenant venir. Jésus va partir, Jésus va s'élever, hein, c'est l'ascension. Et là, ça fait 40 jours qu'ils étaient ensemble. Ils vont se retrouver seuls. Ils vont s'enfermer dans la chambre haute parce qu'ils ont peur. Mais là, cette espérance est devenue un sujet de prière. Père, donne-nous ce que tu as promis. Bien sûr qu'ils savaient que c'était l'Esprit, mais savaient-ils comment l'Esprit allait-il se manifester? Ils ne savaient pas du tout, hein. Ce n'est pas des pentecôtistes à ce moment-là, hein. Ils ne savent pas. Tu as promis quelque chose, tu nous as dit que tu allais maintenant le faire, ben fais-le. Ils sont pleins d'espérance, mais dans l'inconnu. Et pendant 10 jours, ça va durer comme ça. Pourquoi 10 jours? Parce que acte 2, Pentecôte. Pentecôte, du grec penta, penta. 50, 50e jour. Depuis la croix à la Pentecôte, il y a 50 jours. Donc 40 passés avec Jésus et 10, ben Seigneur, on y croit, on espère, vas-y, fais-le. On ne sait pas trop quoi, fais-le. Et là, tout à coup, bref, 10 jours après, un vent qui rentre et des flammes de feu sur chacun. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais il a fallu que Jésus sème cette graine d'espérance, parce qu'ils y croyaient en la promesse, mais c'était tellement abstrait, voilà, ça ne serait pas, hein. Il a fallu que Jésus sème une graine qui, pendant 10 jours, va pousser, 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 et à un moment donné, le fruit, paf, l'esprit qui tombe, l'esprit qui tombe. Et voilà que leur foi, qui a engendré l'espérance, voit maintenant l'exaucement de la promesse qui a été faite pourtant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Dans ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'espérance. Est-ce que dans mon cœur, il y a l'espérance? Oh, l'espérance. J'ai besoin d'espérance. Espérance, espoir. On dit souvent que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu auras l'esprit, il y aura quand même une forme d'espérance. Parce que c'est lui qui crée cela. Romains 15, 13 nous dit, oh, il faut le lire ensemble, celui-ci. Romains 15, 13, très important. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance, Romains 15, 13, vérifiez que votre voisin a bien trouvé, c'est jamais. Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, mais voici le cadre, dans la foi. Avoir la foi, mais dans la joie et dans la paix. Dans quel but? Pour que vous abondiez en espérance. La foi doit te faire abonder d'espérance. Sinon, ta foi, ça sonne creux, quoi. Une foi connaissance, ça n'a rien. Mais une foi vivante qui engendre l'espérance, ben là, tu peux t'attendre à des choses, hein. Et comment? Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit la foi, je vous l'ai dit. La foi doit devenir, toujours par le Saint-Esprit, une conviction. Et la conviction doit devenir, toujours par l'Esprit, une espérance. C'est-à-dire, oui, je sais que Dieu va le faire maintenant pour moi. Une espérance réelle, vivante. On le sait que Dieu a béni des multitudes et des foules entières au temps des évangiles. On le sait qu'Israël n'a manqué de rien dans le désert pendant 40 ans. Ils avaient un Dieu qui marchait à leur côté et qui les bénissait. Mais que nos cœurs soient remplis maintenant d'espérance, parce que le même Dieu qu'autrefois, c'est le même que nous avons. Et ce qu'il a fait autrefois, il veut le faire avec nous aujourd'hui. Donc d'y croire, c'est bien, mais de l'espérer, c'est mieux. Amen. Alors, il y a des choses qu'il faut bannir de nos cœurs. Ces gémissements. C'est très charnel, hein, c'est à nous, hein, c'est humain. Ces gémissements, ces plaintes, ces doutes, l'incrédulité, toutes les déceptions qui ont fait qu'on n'espère plus rien. Toutes ces choses qui ont généré la perplexité. Oh, on verra en son temps. Oh, si Dieu veut vraiment, il le fera. Faut que ces choses soient balayées. J'abandonne mes soucis, j'abandonne mes doutes, j'abandonne tout cela pour que l'espérance puisse porter du fruit. Et je dirais même, je vais aller plus loin parce que parfois même les silences du Seigneur. On a tous connu les silences de Dieu. Et on prie, Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, guéris-moi, guéris-moi, j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin. Et on a un silence à la place. Et on prie pendant une semaine, et on prie pendant un mois, et on prie pendant des années, Seigneur, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Et parfois, on en arrive à baisser les bras. L'espérance, on y croit que Dieu peut le faire. Mais on l'espère plus parce que on s'est résigné. C'est dur. S'il y a un homme qui est dans la Bible un exemple d'espérance, alors qu'il avait tout pour ne plus espérer, c'est Abraham. Il y a une expression qui le concerne, espérant contre toute espérance. Quand on comprend ce que ça veut dire, une version, la parole vivante dira, là où toute espérance, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné à la foi et en la promesse. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham, quand même, s'il y en a un qui a vu le calendrier défiler alors que Dieu lui avait donné une promesse sûre et certaine, mais le temps passant, il n'a rien vu. Quand Dieu lui a dit pour la première fois, je vais te donner une grande postérité et un pays, ce jour-là, son cœur était plein de foi et d'espérance. Hein. Oh, ça va arriver demain. Oh, le mois prochain. Oh, ben, l'année prochaine. Oui, non. Oh, ça a tardé. J'avais relevé le nombre d'années, mais j'ai perdu. Je crois que c'est 21 ans. Et c'est pour ça qu'il est dit espérant contre toute espérance, parce que son épouse, qui en plus était stérile, vieillissait de plus en plus. Hein. Prenez une dame et rajoutez-lui 20 ans, qui avait déjà de l'âge. Au bout d'un moment, on se dit, mais Seigneur, comment tu vas faire tellement? Il a espéré. Oh, bien sûr, il y a eu des doutes, et il a eu son lot, hein, de doutes. Hein. Mais la Bible dira, je vous lis le texte de Louis II, c'est Romains 4, 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, c'est-à-dire la promesse. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, bah, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Vous voyez, il faut que la foi engendre la conviction et la conviction vous donnera l'espérance que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc même si dans tes sujets de prière, tu ne vois pas l'exaucement aujourd'hui, ne gémis pas, mais que ton cœur se laisse remplir d'espérance. Et s'il fallait attendre un jour de plus, un mois de plus, un an de plus, 10 ans de plus, si Dieu a fait la promesse, il la tiendra. Je dis bien si Dieu a fait la promesse. On y reviendra. Il est important que l'espérance repose non pas sur « Oh, j'aimerais que », mais sur les promesses de Dieu. Je voudrais voir rapidement trois domaines. Trois domaines, peut-être qu'on en verra, peut-être deux, on verra ça la prochaine fois. Mais trois domaines dans lesquels nous avons besoin de toujours, toujours, toujours espérer. Parce que c'est toujours d'actualité, ça va arriver. Même si on le sait, parfois, on s'y attend plus. On fait comme si ça n'allait pas arriver. Et pourtant, Dieu nous dit, mais si, ça va arriver, que ton cœur soit plein d'espérance, ça va arriver. Le fait de le savoir, c'est bien, mais le fait de l'espérer, ça sera mieux pour toi. Je parlerai déjà premièrement de l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. S'il y a une expression qui revient assez souvent dans ce domaine de l'espérance, c'est la gloire. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire. Tout ça, ça renferme qu'une idée, qu'une vérité, l'espérance de l'avènement de Jésus. Jésus revient bientôt. Et on le sait tous. Mais est-ce qu'on vit tous les jours comme si, hey, ça va arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on espère réellement que le retour de Jésus peut arriver là aujourd'hui. Hein, des fois, on n'a plus d'espérance. Hein. On se dit, oh, depuis qu'on entend ça, on sait que ça va arriver, mais bon, loin de s'imaginer que ça pourrait peut-être arriver maintenant. L'espérance n'y est plus. Mais on le sait, l'espérance. Romains 8, 24 nous dit, Romains 8, 24 nous dit, on va le lire ensemble, hein? Romains 8, 24. Romains 8, 24. C'est un texte important. Il faut bien le comprendre aussi, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui. Ben oui. Aujourd'hui, tu es peut-être sûr de ton salut, c'est bien, tant mieux, conviction. Mais demain, qui sait les choix que tu feras? Qui sait les réactions que tu auras? Toi, tu penses que tu tiendras bon jusqu'au... Mais tu ne sais pas comment tu vas réagir. On ne se connaît pas, hein? Ce n'est pas le début d'une chose qui est importante, c'est la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, notre salut repose sur une espérance. L'espérance que quand Jésus va revenir, je sois encore debout dans la foi, debout dans la sainteté, debout dans la vérité. Et ça, on ne peut pas savoir. Donc, ça devient un combat de tous les jours. Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais on sait que cette espérance va nous amener à un moment donné, tout va s'arrêter, le retour de Jésus va mettre un terme à tout ça. Dans Thessaloniciens, il est dit, quelle est en effet notre espérance? N'est-ce pas de vous voir aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? J'ouvre une parenthèse, entre nous soit dit. J'espère que vous serez sauvés. Ça vous choque, hein? Mais je l'espère, hein? Aujourd'hui, peut-être que, ouais, je suis bien, là, je suis fort, je suis bien, je suis rempli de l'esprit. Ouais, mais dans un mois, quand tu vas connaître une épreuve qui sera telle que même les fondements de ta foi vont s'ébranler jusqu'à peut-être même s'écrouler, qu'est-ce qui va en rester? Vous savez, prenez la parabole des terrains. Ils ont tous reçu la parole. Mais bon, il y en a certains, avec le temps, il y a les ronces, il y a les pierres, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On est sauvés en espérance. Donc j'espère que vous serez sauvés. Et je sais que vous pensez pareil pour moi, hein, pourvu que le pasteur soit sauvé. On est sauvés en espérance, même si nous avons des convictions. Mais on ne sait pas comment on finira finalement, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut veiller tous les jours sur son salut. C'est pour ça qu'il faut tous les jours travailler à son salut, avec crainte et tremblement, dira l'Écriture. Mais un jour viendra, c'est sûr, tout va s'arrêter parce que Jésus sera là. Et il faut que ce jour-là, je sois comme les cinq vierges avec les lampes allumées et l'huile. Jésus peut revenir n'importe quand. Et on sait que la Bible dit que ça va être soudain. 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 La préparation, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le temps des remises en question, c'est aujourd'hui. Sonder son cœur. Mettre sa vie en règle avec Dieu. Mettre sa vie en règle en conformité des Écritures, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Peut-être que demain tu ne pourras plus parce que Jésus sera soudainement revenu. C'est aujourd'hui. Et quelle tristesse parfois de voir dans les églises, les chrétiens vivre dans une forme de nonchalance, de négligence, comme si le lendemain leur appartenait. On verra demain. Je dois me réconcilier avec un tel, mais je préfère attendre que ce soit lui qui fasse la démarche. Oui, mais si en attendant Jésus revient, il y a tellement des situations qui pourraient être réglées si vraiment on voulait être en règle avec Dieu, mais qu'on ne règle pas parce qu'on se dit « Oh ben, j'ai le temps quand même, je vais encore en profiter un peu ». Seigneur, tu comprends, hein, besoin. Et voilà qu'on a des situations qui stagnent, des situations de péché, de désobéissance, de compromis qui stagnent, comme si le lendemain nous appartenait. Eh oui, mais si Jésus revenait avant le lendemain. 1 Jean 3, 2. Et on va le lire ensemble. 1 Jean 3, 2.1 Jean 3, 2. Jean 3, 2. Il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, quand Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Point. Mais en attendant, voilà mon travail. Quiconque a cette espérance du retour de Jésus, en lui, se purifie, comme lui-même est pur. Parce que si la purification n'y est plus, alors c'est les choses impures qui prennent la place. Et comment le Seigneur pourra-t-il prendre un enfant qui s'est laissé dans l'impureté? Il s'est disqualifié. Si vraiment vous êtes de ceux qui croyaient que Jésus pourrait revenir là, paf, comme ça, eh bien purifiez-vous pour être prêt. Pour être prêt. Se purifier, ça ne veut pas dire être parfait. Mais se purifier, ça veut dire être en règle avec Dieu. Ça veut dire, ben oui, savoir confesser ses péchés, savoir confesser ses erreurs, ses fautes, savoir les reconnaître. C'est savoir abandonner, délaisser les œuvres de la chair qui sait, qui nous savons, ça nous souille de l'intérieur. C'est savoir les abandonner, les rejeter. Je le disais, c'est savoir se pardonner les uns les autres. Ah ben oui, parce que s'il n'y a pas de pardon, ben, il n'y a pas de retour de Jésus pour toi, hein. Mettre sa vie en règle. Jésus revient, c'est une vérité, nous la savons, nous la croyons, mais est-ce que nous l'attendons comme si c'était quelque chose qui pourrait arriver là maintenant? Allez demander à un chrétien qui est joyeux, plein de foi et d'espérance, dites-lui que Jésus revient là maintenant, il va bondir de joie, il sera heureux et content. Enfin! Mais dites ça à un chrétien qui vit dans le péché et qui le sait. Ça va le mettre mal à l'aise. Il va pas crier de joie. Parce qu'il sait très bien que si Jésus revenait, il ne sera pas pris. Il ne peut pas bondir de joie devant ça. Il sera gêné. Et un peuple de Dieu, des chrétiens qui sont gênés à la perspective que Jésus revienne, eh, c'est pas normal. On devrait tous bondir de joie. Il y a des chants qui nous disent eh, bondissez de joie et compagnie. Mais pourquoi? Parce que Jésus revient. Eh, seras-tu prêt quand tu viendras? À certains, ils sont joyeux, mais d'autres disent ouais, Seigneur, pas trop vite, je ne suis pas tout à fait prêt. Seigneur, 5 minutes. Eh, ça fait 2000 ans, hein, pas 5 minutes près maintenant. Attends, mais quand Jésus reviendra, il ne va pas te demander. Il te le dit aujourd'hui, soyez prêt aujourd'hui. Et dimanche après dimanche, on entend ce genre d'avertissement. Et même l'Écriture nous dira, consolez-vous, pour vous dire, consolez-vous à la perspective que eh, Jésus revient bientôt. Donc ça veut dire, eh, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Si tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en conformité avec l'Écriture, pas ce que tu ressens, parce que là aussi, des fois, on est tellement tordu. Oh, mais je ne ressens pas que je suis dans le péché. J'ai trompé, mais je ne me sens pas repris. Eh, C'est la Bible qui te le dit. Alors, les ressentis, non, il est écrit. Il est écrit. Et quand on lit la parole de Dieu avec ce désir réel de vouloir plaire à Dieu, le Saint-Esprit ne manquera pas de vous montrer ce qui ne va pas. Mais parfois, on se cache derrière des perceptions pseudo-spirituelles. Oh, je ne ressens pas. Oh, mon cœur ne me condamne pas, donc ça va. Non, 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 non. Non. Si la Bible le dit, tout simplement. Tout simplement. Mais mettons nos vies en règle. Dans Tite, il est dit, je cite le texte, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce, hein? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est la grâce, hein? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce de Dieu t'a été donnée pour que tu puisses mettre ta vie en règle. C'est ce que le texte dit. La grâce de Dieu t'a été donnée, non pas pour que tu te dises, oh, j'ai le temps, Dieu me fait grâce. Non. Pour que dès maintenant, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, tu mets ta vie en règle. En attendant la bienheureuse espérance de son retour. C'est ça, travailler à son salut. C'est pas simplement faire des œuvres et des œuvres et des activités. C'est bien, des fois, il faut que ces choses se fassent ainsi, mais c'est travailler à la sanctification. Avec crainte et tremblement. Parce que Jésus revient très bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse, l'un des derniers versets, ce n'est pas le dernier, mais c'est cette prière qui était faite. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens. Oui, mais peut-être je vais me répéter, mais le chrétien qui est dans le compromis, c'est une prière qui va avoir du mal à faire. Parce que ce n'est pas dans son intérêt que Jésus revienne maintenant, il n'est pas prêt. C'est terrible. C'est terrible de ne pas pouvoir crier de tout son cœur, Jésus, viens me chercher, je suis prêt. C'est terrible d'être esclave du péché jusqu'à en arriver à, Seigneur, pas maintenant. Attends encore une semaine. Sommes-nous réellement libres du péché? Pour pouvoir crier, Jésus, hé, maintenant, viens, tu peux. L'espérance de la gloire. J'espère que vous avez l'espérance de la gloire. Ça mettra du zèle dans nos louanges. Ça mettra de la vie dans nos chants. Ça mettra de la conviction dans nos prières. Mais imaginez que Dieu nous dise, voilà, je reviens à 18 h. Comment on va passer la journée? Certains, ça va être la joie. Mais d'autres, ça va les mettre sérieusement. Aïe, 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 Seigneur. Être libre du péché pour pouvoir se réjouir en espérance, parce que Jésus revient bientôt. En tout cas, j'espère que vous êtes dans la joie, dans cette alternative qui pourrait arriver là, là, maintenant. Maintenant. Je vais prendre le deuxième point et j'arrêterai pour ce matin. On verra le troisième, je l'espère, la prochaine fois. L'exaucement, l'espérance dans l'exaucement de nos prières. C'est important, hein? Sinon, ça sert à quoi de prier? Je distingue les prières. Oh, louer Dieu, on s'attend à rien. Si ce n'est à réjouir le cœur de Dieu. Mais je parle de ces prières où le Seigneur dira, faites connaître au Seigneur vos besoins. Oui, mais quel intérêt de faire connaître au Seigneur si vous n'avez pas d'espérance derrière? Et vous ne croyez pas qu'il le sait déjà? Vous n'avez rien à lui apprendre, hein? Il le sait si vous êtes en difficulté matérielle. Il le sait si vous êtes en difficulté financière, il le sait. Mais ce texte nous dit que faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute chose vous sera donnée pour que vous puissiez abonder en espérance dans l'exaucement de votre besoin. Parce que faire connaître nos besoins à Dieu sans s'attendre à ce que Dieu y réponde, ça ne sert à rien. Hein. Mais parfois on en est là. Parfois, on prie, mais on ne s'attend pas à ce que Dieu puisse répondre pour combler le besoin. Dans le prophète Michée, et on va le lire ensemble. Allez, le premier qui le trouve, Michée, Mika en hébreu, c'est mieux. Parce que Mickey, sinon, on dirait Mickey. Le CH se dit K, Mickey, Mickey nous renvoie une souris bizarre. Mika. Alors, 7-7. Michée 7-7. Voilà pourquoi on a inventé les tables de matière. Michée, vous l'avez? J'espère. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et là, c'est l'affirmation, mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Et je crois que nous pouvons nous approprier cette affirmation, parce que nous avons tellement de promesses dans l'Écriture qui nous rappellent que Dieu va veiller sur nous. Il y a tellement de promesses qui nous rappellent sans cesse, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas te rejeter. Il a promis, il veillera sur toi. Et tous tes besoins, il les comblera. Donc tu peux affirmer plein d'espérance que si tu fais connaître ton besoin à Dieu, mais qu'il le sait déjà, tu peux vraiment dire, oui, je sais que tu m'exauceras parce que tu l'as dit. Et parce que je suis ton enfant, et Dieu ne peut pas te tromper. Et un autre texte nous dit que l'espérance ne peut pas décevoir. L'espérance ne peut pas décevoir. C'est pour ça que, et j'y reviens, il est important dans nos prières, dans nos demandes, dans nos requêtes, dans nos intercessions, qu'elles soient fondées, non pas sur des « Oh, j'aimerais bien une nouvelle voiture. » Qu'elle soit fondée sur la parole de Dieu. Que tu puisses dire dans ta prière, « Seigneur, tu l'as dit, tu l'as écrit, Seigneur. » Bon, ça ne veut pas dire que peut-être tu n'auras pas une nouvelle voiture, attention. Hein. Mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. Abraham, il a espéré contre toute espérance parce qu'il a cru en la promesse. Et Dieu s'est engagé vis-à-vis de chacun de nous à pourvoir à tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le manger, le boire et le vêtement. Dieu a dit, c'est pour moi. T'inquiète pas, c'est pour moi. Et ça, ça nous dépasse parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoira. On l'a vu, cette providence de Dieu. Dieu est déconcertant. Mais si Dieu a dit qu'il pourvoirait, il le fera. Parce qu'il y va de l'honneur de Dieu. Et Dieu ne peut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses propres promesses. Donc, tes prières, tes demandes et tes requêtes peuvent s'appuyer avec certitude sur les promesses du Seigneur. Donc, tu peux espérer de tout ton cœur que ça va vraiment arriver. D'où, comment, quand, ben ça on ne sait pas. Mais Dieu le fera toujours. Le psalmiste disait ceci, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. C'est vrai que Dieu parfois prend son temps. Oh, il éprouve la foi. Mais si Dieu l'a dit, il le fera. Dans le psaume 119, ça revient souvent. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Toujours dans le 119, mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Toujours dans le 119, tu es un asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Toujours dans le 119, tu devances l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Voilà pourquoi on est plein d'espérance, parce que nous espérons dans les promesses de Dieu. Et il y a tellement de témoignages qui montrent que ce que Dieu a dit, il le fera. Là, j'ouvre une parenthèse et je mets vraiment, petit aparté, attention aux fausses doctrines. Oh, on l'entend plus trop, mais des fois, il y a des relents. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé en son temps la foi positive. La foi positive, disait une définition, imagine ce que Dieu pourrait te donner, et Dieu va te le donner. Parce que Dieu a dit, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et là, ça part dans tous les sens. Seigneur, donne-moi ceci, cela, oh et ça aussi. On fait les courses. Ah, une maison, ah, une autre deuxième maison, parce que j'ai besoin de me reposer, ah, un bon travail. Et là, on n'est plus dans le besoin, on est dans les envies, le confort, le matérialisme. Et là, on est quand même surpris. Et Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Pourtant, tu dis que tu... Il faut bien comprendre que nos demandes doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Et quand vous lisez avec attention ce domaine-là, vous verrez que les prières vont devenir conditionnées à ce que Dieu lui a décidé, et non pas ce que toi tu as souhaité. C'est-à-dire que si tu demandes des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, déjà, arrête de prier. Oh, tu peux même jeûner pendant 40 jours, ça ne marchera pas. Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Il faut bien comprendre lequel qu'elle soit. N'allez pas dire au Seigneur, « Oh Seigneur, tu as promis que si je te demandais quoi que ce soit, tu allais le faire. » Non, il n'a pas dit ça. Si c'est dans le cadre de sa volonté, dans ses promesse. Alors tu peux t'attendre avec assurance qu'il le fasse en son temps. Il est important que nos demandes, nos prières s'appuient sur la parole de Dieu et je vais même aller plus loin sur les révélations qu'il pourrait te donner. Je vais vous donner un exemple. Paul. Paul, un jour, il était mal, il n'était pas bien. Et il a prié, Seigneur, j'en peux plus, guéris-moi. C'est biblique, hein? Ah, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être qu'il citait le texte, même, hein? C'est écrit, Jésus, dans Ésaïe, t'as vu? Guéris-moi! Ah oui, mais Jésus va se révéler à lui. Il va lui dire, ma grâce te suffit. Donc, il reçoit une révélation qui lui donne une autre orientation que les promesses qui étaient écrites. Donc là, il comprend que ça ne sert à rien d'insister. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, bien sûr, les promesses de Dieu, mais d'avoir, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, je te demande ceci et je sais que c'est conforme à ta volonté, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux me l'accorder? Il est bon d'interroger le Seigneur avant de s'entêter des jours entiers, des semaines entières, des mois entiers, prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et au bout d'un moment, vous allez arrêter tout seul de fatigue. Hein? Le Seigneur va vous laisser vous épuiser et vous allez tomber dans une résignation. À quoi bon continuer? Mais si nous prenions le temps de consulter le Seigneur, Seigneur, tu sais, voilà, il y a ça, la Bible dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu me dis, toi? Vous savez, quand Pierre a jeté les filets, il était déçu parce qu'il avait pêché toute la nuit, il n'y avait rien. Rien. Et Jésus va lui dire, tu devrais jeter le filet là, à droite, maintenant. Et imaginez Pierre, toute la nuit. Et Pierre va dire, bon, ok, sur ta parole, je le fais. Et là, le filet, pouf, il s'est rempli. que nos prières s'appuient sur la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit vous montrera les choses. Le Saint-Esprit vous conduira dans ce que Dieu attend de vous. Le Saint-Esprit. Voilà l'aide nécessaire chaque jour qui va vous conduire, même dans vos prières. N'est-il pas dit qu'il va vous-même vous inspirer dans les prières? Tiens, on en a besoin, hein? Des fois, on s'entête dans des prières et on se dit, mais le Seigneur ne peut qu'exaucer parce que c'est selon sa volonté. Oui, mais. Des fois, il est bon de consulter, d'avoir une révélation pour avoir la bonne orientation. Quand Paul s'est retrouvé devant cette porte fermée pour lui qui voulait aller évangéliser la Mysie, certainement qu'il en a fait un sujet de prière. Hey, Seigneur, pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Paf, la révélation. Et là, on comprend. Faut plus insister. Pourtant, l'évangélisation, ça tenait au cœur de Dieu quand même. Oui, mais voilà, c'était pas le bon terrain. Maintenant, nouvelle orientation et la façon de prier va changer. On va prier pour un autre peuple. Tout simplement. Il est bon d'avoir des orientations, des révélations. Et ça, c'est au pied du Seigneur. Hein, c'est au pied du Seigneur que vous aurez ça. Il va vous éclairer. Parce que Dieu n'exaucera que les prières qui sont selon son cœur, sa volonté et ce que lui a décidé. Ne croyez pas qu'on va manipuler la volonté de Dieu. On ne va pas manipuler le bras de Dieu. Donc la foi positive, bon, laissez ça de côté. Hein, appuyez-vous sur les promesses et les révélations. C'est ça qui doit conduire votre vie de prière. Et là, vous pourrez vous attendre, en toute espérance, à ce que Dieu exauce. Je terminerai avec ce dernier verset, c'est Jacques qui dira, il prend le domaine de la sagesse. Si quelqu'un demande la sagesse, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si dans ton cœur tu n'as pas la foi et tu n'as pas l'espérance, ne t'imagine pas que Dieu va exaucer quoi que ce soit. Comment Dieu va-t-il honorer ta foi et ton espérance si toi-même, tu t'y attends pas? On a parfois des prières toutes faites, toutes mécaniques, là. Il faut vraiment que notre vie de prière soit renouvelée par l'onction du Saint-Esprit. Que notre foi engendre cette espérance qui s'appuie sur les promesses de Dieu, sur la révélation de Dieu. Et là, on sera plein d'espérance. Amen. On verra la prochaine fois, on verra là. Un autre domaine dans lequel nous devons espérer. Mais il y en a tellement où parfois l'espérance a laissé la place à la... Vous connaissez le contraire de l'espérance? Désespérance. On est désespéré. C'est-à-dire, on ne s'y attend pas. On le fait parce que ça fait bien de le faire. On prie. On devient des robots de prière. Tout est mécanique. Mais on ne s'y attend pas. Nous voulons vraiment nous attendre aux choses que nous demandons au Seigneur. Nous voulons vraiment nous attendre à sa grâce. Parce que le Dieu de l'espérance veut que nos cœurs soient remplis d'espérance. Amen. On va terminer par ce dernier texte. Je vais simplement le lire, parce que le temps que vous le trouviez, on va gagner du temps. Je l'espère. Lamentations 3, 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Oui, mais avant, ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence, mais dans l'espérance. Parce que ça va arriver. Amen. Et Romains 12, 12, je vous le lis, c'est très court. Réjouissez-vous Non. Réjouissez-vous en espérance. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Notre Dieu, nous te bénissons. Tu es un Dieu d'espérance et combien tu veux que l'espérance, oui, en nous soit vivante. Oh, nous te bénissons parce que tu nous as donné le Saint-Esprit pour que ces choses soient vivantes et abondent dans nos cœurs. Oh, combien nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu as trouvé en nous de la désespérance. Seigneur, nous voulons que notre foi soit renouvelée. Nous voulons que nos convictions soient renouvelées. Nous voulons que notre espérance soit renouvelée. Oui, nous voulons que tu renouvelles la vie en nous, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'espérance. Nous nous attendons à toi. Nous voulons pas nous bercer de religiosité ou de connaissance, mais vivre d'espérance avec toi, parce que tu es un Dieu d'espérance. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, de poser ta main sur notre désespérance et de lui donner vie, de lui redonner vie. Nous voulons vraiment nous attendre à toi comme quelqu'un qui peut aujourd'hui même faire quelque chose pour nous parce que tu es vivant. Nous bénissons ton nom. Amen. Amen. Amen.